raconte. Christophe Ondelatte.
En 2013, Sophie Richard et Sébastien Chantereau, 24 et 26 ans, sont amants. Mais elle est mariée. Après 3 mois et demi de romance, il décide de tuer le mari gênant. C'est lui qui l'a achevé à coups de pioche. C'est elle qui a tout manigancé. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Sophie Richard et Sébastien Chantereau.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En octobre 2013, à Somme-Suippes, dans la Marne, Sophie Richard, mariée à un militaire, s'ennuie. Alors, pourtant mère de famille de 2 jeunes enfants, elle va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Grâce à un site de rencontre sur Internet, elle tombe amoureuse de Sébastien Chantereau. 3 mois et demi plus tard, les amants élaborent un plan diabolique, se débarrasser du mari gênant.
Plus c'est bref comme rencontre, plus l'intensité ou l'organisation criminelle est sophistiquée.
Jean-Luc Ployer, expert psychologue.
Quand on élabore ce type de pacte, c'est effectivement, je vais être ton héros en quelque sorte. Tu m'armes le bras, je le sais, mais en même temps, je vais le faire parce que tu me le demandes. C'est quelque part un discours comme ça qu'on entend. C'est une pseudo-preuve d'amour, en quelque sorte. Et donc ça, c'est redoutable en matière criminelle, si vous voulez. Il y a aussi une espèce de surenchère. Quand on rencontre quelqu'un, manifestement, l'autre veut se positionner de façon la plus positive possible. On n'est pas dans le passionnel, mais on est dans l'irrationnel, en quelque sorte. Parce qu'évidemment, quand nous, on a de la distance, quand on essaie d'observer ça à distance, comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. En 3 mois et demi, ils ont pu élaborer ça. C'est invraisemblable. Oui, mais c'est la réalité quand même.
S'il se confirme, le scénario est digne d'un mauvais film de série B. Les enquêteurs se dirigent vers la thèse du drame familial pour le meurtre du sergent mécanicien Julien Thévenet, 24 ans, dont le corps a été retrouvé le 26 janvier dans son garage. Le corps de la victime massacrée à coups de pioche a été découvert au domicile familial de Somme-Suippes par son épouse et un voisin. Le crime devait être parfait, en faisant croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais très vite, leurs soupçons se sont portés sur les 2 amants, en cause des contradictions durant leur déposition, ainsi que la mise en scène apparente des lieux du crime.
Avant d'aller voir les protagonistes, en quelque sorte, je ne connais pas le dossier. Ça ne m'intéresse pas. Je le lis après. Tout simplement parce que quand je vais les voir, je ne veux pas être influencé par quelque élément que ce soit du dossier, si vous voulez. C'est une façon de travailler. J'ai des collègues qui travaillent de façon complètement différente, qui disent qu'il faut absolument connaître le dossier avant. Moi, ça fait 35 ans que je pratique comme ça. Bon, par contre, je vois que c'est effectivement un assassinat, une complicité d'assassinat. Donc c'est un couple. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup à la fois d'analyser la personnalité de l'un et de l'autre, mais surtout en matière expertale, pour expliquer aux jurés ce que j'appelle la systémie du couple, c'est-à-dire comment ça fonctionne l'un par rapport à l'autre. Donc là, ce qui m'importe, moi, c'est de les voir le plus rapidement possible, l'un et l'autre. Je peux malheureusement pas les voir en même temps, ce qui m'aurait fort intéressé, si vous voulez, mais je peux pas le faire. Juridiquement, je peux pas le faire, j'ai pas le droit. Je pense que je les ai vus à peu près à l'intervalle d'une dizaine de jours. Moi, je les vois à un moment donné, où, manifestement, Madame Richard me dit que c'est M. Chantereau qui a commis le crime, avec une espèce de déferlement de violence, comme ça. Et elle me dit qu'elle assume le fait qu'elle lui a mis un somnifère pour l'endormir, hein, le matin, comme ça, voilà, pour qu'il puisse pas réagir, si vous voulez. Et par contre, M. Chantereau, lui, a un discours très variable, où manifestement, il se rend compte progressivement, comme ça, qu'il est dans de beaux droits, hein, assassinat, avec une préparation quand même, etc. Donc, et là, il contourne complètement les choses, il inverse complètement les choses. Mais ça, je le vois souvent dans des affaires comme ça, de pactes criminels, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entente, de complémentarité criminelle jusqu'à la scène de crime. Après, je constate pratiquement dans tout ce type de dossier, ce genre de dossier, c'est chacun pour soi.
La maison d'arrêt de Reims, c'est une toute petite maison d'arrêt avec une grande cour pavée.
Maître Pierre Lombroso, avocat de Sébastien Chantereau.
À l'époque, il y avait un potager même dans cette cour pavée. On passe le portique et puis on est amené dans un parloir avocat. Un parloir avocat, c'est une toute petite pièce qui fait la moitié d'une cellule. Donc ça doit faire peut-être 4 mètres carrés, quelque chose comme ça. Toute petite fenêtre, des barreaux, il y a très peu de lumière. Et on attend que les surveillants aillent chercher le détenu pour que vous puissiez le voir. Et ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'on est dans une espèce de bulle, puisqu'on est dans cet tout petit espace qui est un petit peu éloigné du reste. Et on entend des clés, on entend des cris, on entend des bruits. Et à chaque fois qu'on entend un bruit ou un bruit de clé, on se dit ça y est, il arrive. Et on est toujours un peu traqueux avant de voir pour la première fois un client, parce qu'on se demande comment il va être, s'il va nous plaire, si on va lui plaire, s'il y a une relation qui va pouvoir s'instaurer. Et donc on est toujours un peu, pas sur la défensive, mais on est toujours inquiet de comment ça va se passer la première fois. Et le surveillant vous amène cet homme. Alors là, Chantereau, il est très ténébreux, il est très taiseux ou taisant. En même temps, on sent dans son regard une grande sensibilité, quelque chose de perdu, et le fait qu'il ne se rend pas compte ou qu'il comprend pas bien ce qu'il fait là. Donc je le fais asseoir, il y a une petite table, comme une petite table d'école, vous voyez. Et on est l'un en face de l'autre. Et à ce moment-là, c'est à moi, tout de suite je le comprends, d'entamer la conversation, parce que lui ne l'entamera pas tout seul. Et je le pousse pour que petit à petit, il me raconte comment les choses ont pu se passer et qu'est-ce qui l'a animé sur le plan psychologique, quel a été le détonateur pour ce passage à l'acte. Fou, quoi.
Monsieur Chantereau, je sais que c'est difficile pour vous, mais je suis là pour vous aider. Faites-moi confiance. Comment en êtes-vous arrivé là? Je sais pas, moi. Je sais pas. Je l'aimais. Je voulais qu'on soit heureux. Il fallait supprimer son bourreau, c'est tout. Elle me disait qu'il l'a maltraitée. Alors moi, vous savez, je picole beaucoup. Quand il a fallu tuer, j'étais prêt à le faire.
Et donc voilà, on commence comme ça, tout doucement, parce que c'est vraiment quelqu'un de très timide et très introverti et c'est quelqu'un qui fait pas confiance comme ça, et en même temps très gentil, une voix très douce, aucune manipulation dans sa façon de fonctionner, très direct. Il pourra me dire à certains moments que tuer pour lui c'était quelque chose d'évident. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui disait ça. Avec tous les clients que j'ai eus, même si peut-être ils le pensaient, ils ont toujours eu une certaine retenue, même vis-à-vis de leur avocat. Ils vont pas leur dire spontanément, finalement, je dois te dire, j'ai pris du plaisir. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un type qui m'a fait en même temps froid dans le dos par cette espèce de côté un peu comme ça, glacial et détaché de la réalité des choses, de l'incompréhension de ce qui s'était passé, et puis de cette façon évidente pour lui, il a tué, pas, il aurait été faire ses courses ce matin-là, c'était, je vais exagérer, mais c'était un peu la même chose. Et donc, on le prend pour, au départ, pour quelqu'un de dangereux, de néanmoins humain, et en même temps, qui a une espèce de qui glace. Donc, on se quitte, et je me dis, bah, il va y avoir du travail. D'un côté, je suis complètement... En vrai, c'était une des premières fois. Hein. Je suis complètement bouleversé par ce type. Donc, je me dis, il va falloir que je commence à travailler avec lui sur sa personnalité pour ou la comprendre totalement et être capable de l'exprimer vis-à-vis d'un juge ou d'une cour d'assises un jour. Et donc, il va falloir beaucoup travailler. Et puis, il va falloir beaucoup travailler avec lui sur la façon dont il va se présenter. Parce que s'il se présente comme ça devant un juge d'instruction ou devant une cour d'assises, c'est perpétuité, quoi.
Le psychologue Jean-Luc Poyer est mandaté pour comprendre le fonctionnement du couple. Il rencontre d'abord Sophie Richard. À 24 ans, c'est une femme froide, sans une once de remords.
Je suis mandaté pour aller voir Madame Richard, donc je la vois, si je me souviens bien, à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Enfin, je l'ai vue deux fois d'ailleurs, parce qu'elle m'avait quand même tout à fait... J'avais quelques questions complémentaires à lui poser. La première fois que je la vois, je sais simplement qui elle est, quel âge elle a, et qu'est-ce qu'on lui reproche au niveau de la nature des faits, c'est-à-dire complicité d'assassinat. J'ai repéré d'une part ce que j'appelle une adhésion à l'expertise, hein, c'est-à-dire que elle était relativement courtoise, elle n'était pas réticente, en quelque sorte. Hein, son amant l'a été beaucoup plus, dans un premier temps en tous les cas. Mais elle était très contrôlée et j'avais repéré une espèce de mise en place chez elle de carapace comme ça, où c'était très difficile quand même de fissurer cette carapace. Ce qui m'a tout à fait étonné, quand je la vois la première fois, c'est sa prestance, sa vigilance. Elle est extrêmement consciente de l'enjeu même de l'expertise, si vous voulez. Et à aucun moment de l'expertise, pour ça que je suis allé la revoir, j'ai vu chez elle ce que j'appelle une vibration émotionnelle. C'est quand même pas rien. Elle est là pour complicité d'assassinat, son mari qui est mort. Sur la scène de crime, il y avait également ses enfants qui étaient présents. Elle est incarcérée. Et en règle générale, on observe souvent chez ce type de personnage ce qu'on appelle un syndrome dépressif réactionnel, si vous voulez, soit l'incarcération, soit au fait, soit l'instruction. Elle, pas du tout. Dans le contrôle totalement. Donc ça m'a beaucoup intéressé. C'est ce que j'ai perçu immédiatement. Son comportement, ses postures, ses attitudes, ses réactions au moment de l'expertise, j'ai un peu l'habitude quand même, hein. Aucun lâcher prise. En permanente, elle était sous le contrôle, alors qu'elle est très jeune. Elle a 24 ans au moment où je la vois, hein. Manifestement. C'est quand même, effectivement, c'est ce qui m'a questionné le plus, en quelque sorte, par rapport à sa personnalité. Très structurée, très organisée. Alors, c'est pas des mots en l'air en matière criminelle, hein. Ça veut dire que, compte tenu de ce potentiel-là, elle peut mettre en place une organisation criminelle relativement structurée ou sophistiquée, si vous voulez.
Code B 10070. Expertise psychologique de Jean-Luc Ployer. Quant à son rapport à la culpabilité, Madame Richard est sans expression émotionnelle, explicite ou spontanée. Elle va regretter le fait d'avoir administré un somnifère à son mari et de ne pas avoir appelé les secours. En revanche, elle n'évoque pas le décès de son mari et un éventuel traumatisme sur ses enfants.
Je dis, mais madame, vous êtes mise en examen pour complicité d'assassinat. J'insiste sur le terme complicité, pour voir un petit peu comment elle va se positionner par rapport à ça. Immédiatement, elle assume, en quelque sorte, sa responsabilité criminelle, au niveau de la préparation, au niveau de l'intentionnalité, voire de la préméditation, en quelque sorte, hein, pour que son mari disparaisse. Hein. Après, elle va rationaliser les choses, en disant, oui, mais si j'ai pris cette décision-là, c'est parce que Sébastien Chantreau m'a expliqué qu'en fait, mon mari, il était violent, etc., et qu'il fallait que je fasse attention, donc il fallait que le supprimer, en quelque sorte.
Côte B 10-110. rapport d'enquête de personnalité. Sophie Richard exerce des gardes à domicile de personnes âgées ou handicapées, y compris la nuit. Elle travaille également comme aide ménagère. Elle a eu un garçon d'une précédente union alors qu'elle avait à peine 20 ans.
J'ai recherché aussi s'il n'y avait pas, dans son parcours de vie, notamment dans ses conditions d'enfance, d'adolescence, d'éducation en quelque sorte, des éléments qui auraient pu participer d'une façon ou d'une autre à la genèse des faits. C'est une question qui nous est posée. Alors, en ce qui la concerne, manifestement, c'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, d'après ce qu'elle m'a dit, avec ce que j'ai appelé dans mon jargon une problématique névrotique, mais relativement banale, hein, comme des millions de personnes peuvent en avoir. C'est pas cette problématique-là qui va la pousser à commettre ces faits-là, si vous voulez, en disant qu'elle était plutôt malheureuse quand elle était plus jeune, hein, notamment dans son fonctionnement familial. Elle était complexée, hein, par un problème physique. Elle dit « j'ai pas eu d'adolescence, etc. quand j'étais, car j'étais petite et grosse, avec l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant une forme de harcèlement, notamment scolaire. Hein. Elle précisera qu'elle était un peu le bouc émissaire du collège. Est-ce la réalité? Est-ce une façon de se victimiser? Ça, c'est autre chose. Hein. Et donc après, ce qui m'intéresse, c'est que très vite quand même, puisqu'au moment des faits, elle est jeune, hein, mais très vite, elle se précipite dans une espèce d'autonomie, de prise d'autonomie, d'indépendance, par rapport à son milieu familial. Et donc là, à 16 ans, elle rencontre un premier homme, Christophe, hein, parce qu'elle voulait absolument avoir des enfants très jeunes, enfin c'est ce qu'elle me dira, si vous voulez. Donc il y a eu 4 ans de concubinage, elle a vécu avec cet homme-là, chez ses parents d'ailleurs, dans un premier temps, et elle me précisera qu'ils l'ont mis à la porte. Elle s'est retrouvée enceinte, elle a perdu le bébé, enfin, bon, elle a eu ce qu'on appelle des débuts de parentalité difficiles, si vous voulez. Alors, je lui ai posé la question aussi par rapport à son mari, qui est donc le deuxième ou le troisième homme qu'elle rencontre, en quelque sorte. Et là, elle me parle d'un mari qui la sécurise, qui la rassure, qui la protège, en quelque sorte. Donc, c'était effectivement important. Mais elle me dit aussi qu'il était relativement absent, puisque militaire, et donc ça s'est relativement rapidement dégradé aussi au niveau du couple. Et elle me parlera également de mise en place assez rapide de violences dont elle aurait été victime de la part de Julien. Elle sent que son couple se dégrade, etc., alors qu'ils ont des enfants, enfin, en bas âge, hein, et que manifestement, elle se confie à une amie. Cette amie lui dit, bah, prends un amant, enfin, voilà. Et c'est ce qu'elle fait. Très vite, ça se passe de façon intense, en quelque sorte, avec cet amant.
Code B1008, rapport d'enquête de personnalité. Sophie Richard décrit son mari Julien ainsi. Il me disait que j'étais grosse et moche, je ne me sentais plus aimée. Via un site de rencontre sur Internet, elle tombe sous le charme de Sébastien Chantereau. Elle dit de lui... Il m'a rendu l'amour, c'était un pilier pour moi, mon rayon de soleil, il était gentil avec les enfants, nous retrouvions le goût de vivre, j'étais convaincu qu'il était amoureux de moi et que j'avais enfin trouvé la bonne personne. Sophie Richard raconte sa vie de couple à Sébastien Chantereau. Elle raconte un enfer et elle décrit un tortionnaire, un sale mec. Mais est-ce la vérité ?
Elle se plaint de violence, etc., vis-à-vis de son mari, alors que dans le dossier, en fait, on se rendra compte que le mari n'était absolument pas organisé comme ça, en tous les cas, sur le plan de la personnalité, en tous les cas, parce que c'était trop, je mets des guillemets là-dessus, mais c'était trop cousu de fil blanc, si vous voulez. Elle l'a décrit de façon inverse, ou alors ce que j'appelle en miroir, c'est-à-dire que c'est plutôt elle qui fonctionnait dans le couple, dans la toute-puissance, ou dans la maîtrise, ou dans le contrôle.
Elle a aussi une conduite complètement folle avec son mari. Elle lui prend sa carte bleue, elle l'empêche d'avoir de l'argent, elle lui donne de l'argent de poche.
Maître Pierre Lombroso, avocat de Sébastien Chantereau.
Le mec, il est militaire sur une base. Il s'occupe de réparer les hélicoptères. Je veux dire, c'est un type érudit, quoi. Enfin, c'est un type qui a... C'est un technicien. Et ben, il accepte que sa femme lui donne 20 balles d'argent de poche par semaine pour vivre et que tout le reste serve pour soi-disant le bien de la maison. Je veux dire, les gens se rencontrent pas par hasard, quoi. Elle a rencontré cet homme avec le même mode opératoire parce qu'elle l'a rencontré aussi sur un site de rencontre. Elle en a fait une espèce d'esclave. Elle a voulu sa mort pour pouvoir bénéficier de la totalité, entre guillemets, de sa fortune. Et elle s'est servie, on est un peu en miroir, elle s'est servie du même type d'homme qu'elle pourra asservir de la même façon, mais cette fois-ci pour exécuter le mari. Je dis pas qu'elle, c'est une grande perverse manipulatrice, hein. Ce que je veux dire simplement, c'est que elle aussi doit avoir ses névroses, hein. Parce que pour avoir cette haine, parce que finalement, inconsciemment, c'est une espèce de haine envers les hommes, et cette volonté de pouvoir dominer et jusqu'à tuer pour pouvoir bénéficier des avantages qu'un homme peut vous donner, il faut avoir quelques petits problèmes psychologiques aussi, hein.
Les procès-verbaux contenus dans la côte B de Sophie Richard révèlent une femme manipulatrice. Son amant, Sébastien Chantereau, se révèle tout aussi diabolique. Sa froideur va jusqu'à impressionner son propre avocat.
Il m'a comme avoué, alors, au bout d'un certain nombre de mois, qu'il avait été lui-même affolé de voir qu'il pouvait prendre du plaisir à tuer.
Maître Pierre Lombroso, avocat de Sébastien Chantereau.
Donc des remords, il n'en a pas. En revanche, des regrets, oui, il en a. C'est-à-dire qu'il regrette absolument d'avoir tué cet homme, parce qu'il s'est rendu compte de qui c'était au cours de l'audience, qu'il a des regrets de s'être fait manipuler par cette femme, et qu'il a des regrets, bien évidemment, de se retrouver en prison encore pour 10 ans. En fait, plus on va se rencontrer, plus petit à petit, je vois le petit garçon en lui. Petit à petit, c'est un petit garçon qui se met à pleurer et qui explique que il a rencontré cette femme sur Internet, qu'il était tombé follement amoureux, qu'il pensait vraiment qu'il allait pouvoir vivre avec elle, qu'elle n'arrêtait pas de lui dire que c'était une femme battue, que son mari était horrible, qu'elle n'avait pas d'argent, que les enfants étaient maltraités, et que tout d'un coup, c'était devenu comme une mission pour lui. De sauver cette femme et ses enfants. Et il avait enfin quelque chose dans sa vie pour lequel il pouvait se battre, quoi.
Code B2003. Rapport d'enquête de personnalité. Sébastien Chantereau explique. Mon père m'a abandonné à la naissance. J'avais renoué avec lui à mes 18 ans, mais on ne faisait que de s'engueuler. On buvait beaucoup. Ma mère s'est mariée, puis a divorcé d'un autre homme. Mais il n'a jamais été bon avec moi. Moi, je considère que ce sont mes grands-parents, et surtout ma grand-mère, qui m'a élevé.
Et c'est vers elle qu'il a été, dès que le meurtre a été commis. Puisqu'il a été déjeuné chez elle, je crois, le lendemain à midi, avec cette fameuse Sophie Richard, pour lui demander de leur offrir ses fameux billets pour aller à Disneyland avec les enfants. Mais c'est quand même la première personne qu'il a été voir juste après. Et je pense qu'il avait besoin d'une espèce de réconfort, même s'il pouvait pas dire ce qu'il avait fait. Et il m'a toujours expliqué que c'était vraiment ses grands-parents qui l'avaient étayé. Mais il m'a expliqué aussi qu'il avait jamais été réellement étayé. Et que le fait qu'il n'ait pas eu de figure paternelle, voilà, il n'y a pas eu de grandes barrières dans sa vie, il n'y a pas eu de rappel à l'ordre, il n'y a pas eu de le bien, le mal, voilà.
Côte B 2001. Rapport d'enquête de personnalité. Sébastien Chantereau est admis à un BEP mécanique auto, mais il n'obtient pas le diplôme. Il fait des petits boulots dans des pizzerias ou des pompes funèbres. C'est à cette période qu'il a ses premières relations sentimentales. Il rencontre Émilie, une jeune femme plus jeune que lui.
Il a une vingtaine d'années, il va vivre 4 ans avec elle, dans un appartement à Reims, où il n'aura pas le droit de sortir. Il n'aura pas le droit d'aller voir ses grands-parents. Il me décrit une espèce d'appartement dégueulasse dans lequel personne se lave, tout est sale, il y a des ordures partout, et il va vivre 4 ans là-dedans. Et dans cette espèce de relation, mais complètement sous l'emprise, où il m'expliquait qu'il ne pouvait pas s'en sortir, et que quand il voulait s'en sortir, il se prenait des coups. De pouvoir supporter, accepter, et d'être dans cette espèce de syndrome abandonnique qui fait que, pour être aimé, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi de l'autre, jusqu'à l'humiliation totale et la possession totale par l'autre, c'est impressionnant. Donc c'est complètement contradictoire et paradoxal par rapport à ce que lui commettra après, quoi. Et c'est juste après. Enfin, il va rencontrer Sophie Richard peut-être quelques mois après la rupture et le fait qu'il ait réussi à partir de cet appartement. Et donc, bien évidemment qu'il y a un monde entre le moment où je le rencontre pour la première fois et quand on arrive à la reconstitution. C'est le même homme, mais c'est son autre face.
Ils sont arrivés l'un après l'autre, Sophie Richard, 25 ans, et Sébastien Chantreau, son amant, 27 ans. Devant eux, plusieurs heures de reconstitution dans la maison de Somsweep, où a été tué Julien Thévenet. Objectif, mieux comprendre ce qui s'est passé ici la nuit du 24 au 25 janvier dernier. L'amant affirme avoir donné les coups mortels en frappant au thorax Julien Thévenet. Que faisait à ce moment précis la jeune femme? Aux enquêteurs, elle déclare que son rôle s'est arrêté en amont.
Il y a des choses qui nous choquent sur la façon dont Sophie Richard et Sébastien Chantreau vont mettre en scène la mort de ce pauvre garçon. Pendant la reconstitution, Sébastien Chantreau, lui, a toujours dit que c'était elle qui l'avait tué. Et Sophie Richard, bien évidemment, va expliquer que c'est Sébastien Chantreau qui a donné le coup mortel. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche. Ce qui apparaît de façon évidente, c'est que c'est elle qui a donné les cachets pour faire dormir le mari. D'un autre côté, il faut bien porter le corps de la maison au garage. Donc Sophie Richard a dit non, moi j'ai jamais porté le corps. Et Chantreau dit c'est pas possible, je pouvais pas porter le corps de cet homme endormi de la maison. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 15 mètres de la maison jusqu'au garage dans ces conditions. Enfin, voilà. Donc effectivement, on va avoir une espèce de ping-pong entre les deux qui vont essayer de démontrer, en tout cas pour Sébastien Chantreau, que forcément Sophie Richard était là à tout moment, parce que même quand il était dans le garage, et c'est là où on voit l'emprise qu'elle pouvait avoir sur lui, sur le plan psychologique, c'est que quand il est dans le garage, en tout cas à la reconstitution, on le voit très très bien, c'est elle qui fait des allers-retours entre la maison où elle est en train quand même de donner le bain à ses deux petits-enfants. Sachant que la chambre des enfants est mitoyenne du garage. Donc, dans le garage, Sébastien Chantreau dit elle venait et elle m'engueulait. Donc, elle me disait mais je comprends pas, regarde, il y a la fourche, je sais pas, prends la fourche, mets-lui un coup de fourche. Le procureur, lui, il est très content parce qu'il compte les points. Et entre avocats de la défense, c'est la guerre. Notre position à nous, c'est de dire si on l'a fait, c'est parce que Sophie Richard, on était sous l'emprise de Sophie Richard et sous l'emprise psychologique totale de cette femme, et on est un être faible, et étant un être faible, on s'est laissé complètement mener par le bout du nez. Et bien évidemment, de l'autre côté, c'est de dire mais ce Sébastien Chantreau, c'est un être ignoble, fou, serial killer, capable de faire tout et n'importe quoi, et il suffisait que Sophie Richard claque des doigts pour qu'il fasse exactement ce qu'elle voulait. Et il prenait en plus du plaisir à le faire.
Pour tenter de décrypter le fonctionnement du couple, le psychologue Jean-Luc Ployer utilise le test dit de Rosenzweig, des planches de bande dessinée dans lesquelles les personnages vivent un moment de frustration. Sophie Richard et Sébastien Chantereau doivent compléter les bulles de dialogue. Le résultat est limpide.
Ce qui m'intéresse, au niveau du passage à l'acte, puisque là il s'agit d'un passage à l'acte, un assassinat évidemment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe à l'acte ou pas, si vous voulez? Pourquoi il n'y a plus de censure, de contrôle, etc. Donc là j'essaie de repérer, dans ce test-là, effectivement, si effectivement la personne qui le passe contrôle bien son impulsivité, n'est pas envahi pulsionnellement, prendre la distance ou bien passer à l'acte de façon relativement importante. Ça me permet aussi, quand il s'agit d'un couple, de mesurer si qui est impressionnable, influençable ou pas, ou si les deux le sont, ou s'il y en a un qui l'est plus que l'autre. Ça me permet de répondre à ces questions-là. Mais là, c'était pour moi tout à fait significatif. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Madame Richard est dans l'organisation, dans la maîtrise, dans la toute-puissance, dans la prise d'initiative par rapport aux actes de la vie quotidienne. C'est elle qui élabore, qui structure. Monsieur Chantreau est plutôt, dans une espèce de neutralité, comme ça, dans les actes de la vie quotidienne. Mais avec également chez lui, ponctuellement, ce que j'appelle un très mauvais contrôle pulsionnel. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui va passer à l'acte, concrètement, c'est lui. C'est pas forcément organisé chez lui, mais à un moment donné, il peut pas différer les choses. Et il passe à l'acte. Après, effectivement, compte tenu des résultats du test, j'essaie effectivement de croiser avec quelques éléments du dossier que j'ai par ailleurs, et notamment, par exemple, quand je regarde le casier judiciaire de l'un et de l'autre, je me rends compte évidemment qu'il y en a un, j'allais dire, qu'un casier judiciaire relativement fourni, si je puis dire, notamment par rapport à des problèmes de violence antérieurs, notamment des violences conjugales, alors que l'autre est totalement vierge, si vous voulez. Donc, manifestement, ça corrobore en quelque sorte.
Ordonnance de mise en accusation. Le casier judiciaire de Sébastien Chantereau comporte deux mentions. Une condamnation à 15 jours de prison avec sursis pour outrage et violence aggravée et une peine d'un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour violence aggravée en situation de récidive.
Pour moi, qui réfléchis surtout sur la systémie du couple, qui a fait quoi ? Comme une espèce de muscle qui fonctionne en synergie, si vous voulez, qui alimente qui, manifestement, assez rapidement, pour moi en tous les cas, par rapport aux questions qu'on me pose, aux hypothèses de travail hein, que je vais élaborer, moi j'ai aucune certitude si vous voulez, mais immédiatement, je me dis, c'est plutôt elle qui était du côté du commanditaire, de l'idée de tuer son mari, plutôt que lui. Vous voyez, c'est-à-dire que, compte tenu des traits de personnalité essentiellement.
Code B10068, expertise psychologique de Jean-Luc Ployer. Madame Sophie Richard a agi en toutes circonstances avec un bon niveau de conscience, d'intentionnalité, et son libre arbitre n'a pas été affecté en ce qui concerne sa personnalité par une problématique éventuelle, soit d'emprise, soit de soumission relationnelle à son amant.
La presse les a surnommés les amants diaboliques, un couple jugé aux assises de la Marne depuis ce matin, un homme et une femme qui auraient fomenté l'assassinat de Julien Thévenet, militaire de Somme-Sup.
Quand j'arrive dans une cour d'assises, j'ai un réflexe, je regarde les mises en examen, physiquement, pour voir si je m'en souviens. Alors de temps en temps, ils ont relativement changé, hein. Ils ont soit pris du poids, soit effectivement, soit un peu tassés par les médicaments, etc. Bon, moi, ce que j'avais repéré au moment du procès, ils étaient dans une espèce d'espace, de bulle, si vous voulez, où il n'y a plus du tout d'interférence l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que ils étaient totalement étanches, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus, l'un par rapport à l'autre.
Eh bien, Sophie Richard, à l'audience, elle va jouer un peu la veuve éplorée. C'est-à-dire qu'elle va expliquer qu'elle ne voulait pas. Qu'elle ne voulait vraiment pas, qu'effectivement, son mari n'était pas gentil avec elle, mais que jamais elle aurait imaginé ce genre de choses, et que c'est Sébastien Chantreau qui lui a soufflé tout. Parce que Sébastien Chantreau était très amoureux d'elle. Et que pour lui, c'était extraordinaire de se dire qu'il allait supprimer le mari et permettre au couple de pouvoir enfin vivre libre. Ça faisait 4 mois qu'ils se connaissaient. Hein. Ça faisait pas 3 ans. Donc c'est pour ça que Sébastien Chantreau aussi est dans une espèce de rêve de petit garçon. Quoi. Pour Sébastien Chantreau, il est évident qu'il a sauvé Sophie Richard. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Sophie Richard l'accuse, pour lui, c'est un effondrement total. Donc la seule solution, c'est le déni et c'est la vengeance, c'est la riposte. c'est de dire, puisque aujourd'hui, tu viens expliquer, alors que je pensais que notre amour était indéfectible, et j'ai fait tout ça pour toi, effectivement, et que ben, tu me trahis, ben, moi, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Et là, là sa part d'humanité surgit, et là, effectivement, le fait qu'il soit en pleurs est compréhensible, parce qu'il est dans l'effondrement. Il se rend compte, effectivement, que il a fait un truc qui est juste impossible, quoi, et qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas croisé le chemin de cette femme.
Oui, les accusés, vous savez, risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Finalement, on n'en est pas très loin avec les 30 ans requis par l'avocat général. Pour elle, c'est sûr, Sébastien Chantreau est l'exécutant, le manipulé. Mais c'est quand même bien lui dans cette affaire qui a donné 7 coups de pioche.
Après, qu'est-ce qui est le plus grave ? Est-ce que le plus grave, c'est de vouloir tuer quelqu'un ? Ou est-ce que le plus grave, c'est de tuer quelqu'un ? Est-ce que le plus grave, c'est d'amener quelqu'un jusqu'au meurtre et de lui tenir la main, même de façon presque violente, pour qu'il y aille, ou est-ce que c'est effectivement d'avoir porté le coup mortel ?
La cour d'assises de la Marne renvoie les deux amants dos à dos. Ils écopent de la même peine. Sophie Richard et Sébastien Chantereau sont condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. C'était Ondelat raconte, code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête Vincent Deby. Réalisation Mathieu Fret. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez Ondelat raconte, code B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.